Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Aujourd'hui, je suis avec Michel Villeneuve des Vergers Villeneuve et Blueberry Farm. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien. Et là, est-ce que tu veux te présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent en ce moment?
Oui, moi, tu vois, je viens de Saint-Pascal. Mm-hmm. Les Vergers Villeneuve et Blueberry Farm, c'est une ferme initialement de fruits. Mm-hmm. C'est une ferme ancestrale. C'est dans notre famille depuis 125 ans.
OK.
Puis on a toutes les bâtisses originales, donc tout est à peu près 175 ans comme édifice. Mm-hmm. Puis on fait pousser 6 fruits ainsi qu'un légume.
C'est quoi les fruits que vous faites pousser?
On fait pousser le bleuet, la framboise, la cerise, la pomme, la poire et le raisin. Puis notre légume là, qu'on est en train de faire d'expansion, c'est la rhubarbe.
OK. Puis est-ce que vous pensez peut-être, te mentionner une expansion, tu vas rajouter d'autres légumes ou...
Non, penses... c'est ça. Là, la rhubarbe, c'est tout nouveau. Là. On fait juste... on va probablement rajouter plus de framboises. On cultive le sapin. Ben les arbres de Noël, parce qu'on a 3 variétés. On va prendre l'expansion pour les arbres de Noël. Beaucoup. On en a 5000, on va passer à une dizaine de mille.
Tu as mentionné aussi que c'est une ferme ancestrale, donc c'est dans votre famille depuis plusieurs générations.
Oui, moi je suis la 4e génération. Mm-hmm. C'était c'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté là, au début des années 1900.
C'était-tu aussi une ferme qui était pour les fruits puis tout
non,
ça?
Non, c'était une ferme laitière. Moi, j'en ai pris possession de mon grand-père en 1998 suite au verglas. Mon grand-père demeurait encore sur la ferme qui était laitière. Puis il a décidé de s'en aller en résidence. Fait que nous, on a pris la ferme, puis on l'a converti en ferme de fruits.
OK. Puis est-ce que tu as un fruit en particulier que toi, c'est vraiment ton fruit de prédilection que tu aimes ça cultiver à chaque année?
Oui, c'est le bleuet. On est vraiment reconnu pour le bleuet. C'est là qu'on est le plus achalandé. Une chose que j'ai pas oublié de mentionner, c'est que nous, on est en auto-cueillette. Mm-hmm. On travaille pas pour les gens, on les laisse faire. Okay. Donc, si tu veux des bleuets, tu viens les ramasser. Si tu veux la même chose pour tous les autres fruits. Donc, en étant. Tous les gens font eux-mêmes.
Puis, une question que j'ai sur ce monde agriculture-là, qui est les fruits, est-ce qu'à chaque année, il faut que tu ailles les replanter? Tu sais, le blé, il faut que tu le plantes, ailles le semer, puis tout ça. Mais des fruits, est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce qu'à chaque. Durant l'hiver, ben. Il gèle puis tout ça, puis il revient durant le printemps.
Tu vois, ça dépend des fruits.
OK.
Exemple, la fraise, il faut que tu la replantes à tous les 3 ans. Donc, tu l'arraches, tu laisses le terrain se reposer, puis tu en plantes. Nous, chez nous, on ne fait pas de fruits de même. Tout ce qu'on a planté, nous, est là à long terme. Tu vois, les plants, déjà, ont 25 ans de tout ce qu'on a. Mais ce que ça implique, c'est qu'il faut que tu tailles à tous les ans. Donc, les bleuets... Tout ça fait 25 ans qu'on dit que c'est planté, mais on a une cédule, il faut tout tailler.
Donc, à chaque été, ben à chaque printemps, il faut que vous passez, vous les taillez, c'est de la job.
Oui, on commence au mois de mars avec les pommiers. Les arbres fruitiers sont les premiers. On a les pommiers, les poiriers qu'il faut faire. Ensuite, on tombe dans les bleuets, les framboises, puis les raisins. Puis ça nous amène parce qu'il faut tailler les arbres de Noël aussi. Les arbres de Noël sont les derniers, la dernière semaine de juin puis la première semaine de juillet.
Tu vois, moi, je m'y connais pas trop en agriculture puis tout ça. Mais pourquoi tailler? Parce que tu voudrais pas que ton arbre ou ton plant devienne le plus gros possible?
Pas nécessairement. Tu vois, je vais donner l'exemple des pommiers. Mm-hmm. Tu les tailles à tous les ans parce que tu contrôles la production. Parce que tous les fruits vont faire ça. Ils vont pousser trop jusqu'à temps qu'ils s'étouffent.
OK, donc...
ou encore, ils vont produire une année, ils vont produire énormément, tellement qu'il faut qu'ils se reposent l'année d'après. Donc, une année, tu auras une super grosse croissance de beaucoup de fruits. L'année d'après, il n'y en a aucun. Parce que l'arbre s'est épuisé. il faut qu'il prenne une année de repos. Puis là, tu vas en avoir une autre fois. Fait que si tu regardes dans l'ancien temps, il disait que les récoltes venaient aux 2 ans dans les arbres fruitiers. C'est pas vrai, c'est ça, là. L'arbre fait que ça repose. Tandis que, exemple, les bleuets, il y a tellement de repousses qu'il ne reste plus de place pour faire des bleuets. Puis les branches meurent. Puis si tu ne les tailles pas, les branches mortes, ça prend de l'espace. Puis après 4-5 ans, le plant va mourir. Puis donc, nous, on a tellement un grand de bleuets, donc on n'est pas capable de tailler toute la même été. Mais l'année qu'on est sur une cédule de 2 à 3 ans, qu'on a fait tout le champ, mais l'année qu'on taille, ils ont double le nombre de bleuets dans cette section-là. Parce qu'il y a plus d'espace, il y a des plus grosses grappes de bleuets, là. Il y a beaucoup plus de fruits.
OK, je savais pas qu'un arbre, ça devait se reposer. C'est très similaire à nous. T'sais, une année, on peut travailler comme un fou, faire 80 heures semaine, mais l'année d'après, tu vas te brûler.
C'est exactement la même chose. Tu peux, au niveau de l'agriculture, tu peux vraiment tout comparer. Si tu prends le temps d'y regarder, ça se compare vraiment aux humains.
Mm-hmm.
Totalement. Puis, les plantes sont vivantes. Tu vois, exemple? Parce que si tu viens chez moi, j'ai un exemple, moi, où ce que je peux donner aux gens, que les arbres reconnaissent leur environnement.
Mm-hmm.
Si tu plantes un arbre, peu importe où ce qu'il est, s'il est tout seul dans le champ, il va être parfait. Il va avoir les branches égales tout le tour, parce que c'est tout l'espace. On a planté un, nous, à la maison. C'est un abricotier. Il était à peu près à 20 pieds de la balançoire des enfants. Mais l'arbre est tout s'enligne tout vers la balançoire.
Ah
pour toucher la balançoire. Puis il y a plein d'enfants sur les balançoires, sur une plateforme. Puis les branches sont rendues là. Puis ils arrachent des feuilles. On entend les parents dire « Faut pas toucher à l'arbre, vous allez l'endommager. » Pas du tout. L'arbre s'est enligné vers là. Il est complètement... Il n'est pas proportionné, mais pas du tout.
Mais pourquoi qu'il se dirigerait vers
pour
la balançoire?
Pour le bruit des enfants.
Ah oui?
Oui, pour rejoindre le... Les choses, c'est ça, là. Fait que la nature, il faut regarder, mais la nature réagit à son environnement.
Il réagit, puis aussi, il est sensible à qu'est-ce qui est alentour de lui.
Qu'est-ce qui est alentour de lui.
C'est intéressant parce que quand tu vois un arbre, tu penses pas vraiment à ça. Tu sais, quelqu'un qui se connaît pas en agriculture, moi, je viens d'apprendre ça maintenant, mais tu regardes un arbre, c'est vrai, comme si tout seul, il va grandir haut et beau, mais...
C'est ça, parce que tu vois, nous, notre plus beau pommier, il est dans le milieu de notre champ de sapin. Parce que on a eu une grosse gelée une année, puis on a été obligé, tous les arbres sont morts, sauf lui, fait qu'il s'est ramassé tout seul, puis fait qu'il a poussé, il est proportionné, c'est le plus beau pommier que tu peux pas voir. Parce qu'un pommier, habituellement, c'est tout croche,
mm-hmm.
Et lui, il a poussé tout seul, puis il est proportionné, là, très, très bel arbre. Mais c'est ça, il y avait tout l'espace. Fait que les gens, les pommiers, les arbres dans les bois aussi, s'ils poussent un près de l'autre, il n'y a aucune branche quand les arbres sont trop près parce qu'ils n'ont pas d'espace.
Mm-hmm.
Fait qu'ils s'adaptent totalement à leur environnement.
Et tu as mentionné la gelée, qui est un élément qui est assez important dans les dernières années, mais parce que l'année passée, tu m'avais mentionné qu'il y a eu 3 gelées, justement.
Oui, c'est ça. Avec les changements climatiques, là, c'est vraiment difficile maintenant de travailler parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver comme météo. Comme cette année,
mm-hmm.
Il y a énormément de pluie, puis il fait très, très chaud. Mais la pluie, à un moment donné, il y en a trop, puis il manque de soleil. Donc, encore là, les arbres, si on prend l'exemple des pommiers, il y a bien des gens même qui me parlent, puis ils disent « Qu'est-ce qui se passe? » Ils disent « On perd toutes nos pommes, elles ont toutes tombées. » C'est parce qu'il y a trop d'eau. Un arbre a besoin de soleil pour faire de la photosynthèse.
Mm-hmm.
Donc, s'il manque de soleil, c'est pareil comme s'il devient en détresse. Puis, il ne peut pas supporter tout ce qui fait l'arbre. Fait que s'il y a des fruits, pour pas mourir, il va laisser tomber les fruits. Puis ensuite, s'il continue à pleuvoir beaucoup, tu vas voir, les arbres vont perdre beaucoup de feuilles parce qu'il n'est pas capable de subvenir aux besoins de toutes les feuilles. Puis dans le cas des pommiers, c'est la même chose. Ou bien, probablement, la majorité des arbres, s'ils continuent à manquer de soleil, puis il y a trop de pluie, les branches du bas vont mourir dans l'arbre.
OK.
Parce que les autres, ils ne contribuent pas à la survie de l'arbre. S'ils n'ont pas de soleil, les branches du bas ne reçoivent pas de soleil, surtout s'il n'y en a pas beaucoup. fait qu'il conserve ses branches du haut pour avoir le maximum de soleil.
OK, c'est un peu comme nous, mettons, si on est pris sur une montagne puis tout ça, puis on commence à avoir des engelures, c'est ton corps qui est comme « OK, ben on va arrêter de passer du sang là pour garder tes organes vitaux en vie. »
Totalement. C'est lui, pour se conserver en vie, il va laisser tomber premièrement les fruits, les feuilles, puis les branches. Mais c'est toujours organisé que tu peux voir là, que c'est à l'endroit où il y a le moins de soleil. C'est pour ça. Puis les gelées, par contre, ça va plus affecter les fruits.
Mm-hmm.
Tu vois, nous, à la ferme, tout est en fleurs à partir de la première semaine du mois de mai. Mm-hmm. Mais c'est une rotation. Parce que toutes les arbres ne fleurissent pas toujours en même temps. Ils ont chacun leur période pour maximiser le nombre d'abeilles qui vont pouvoir venir les voir. Okay, c'est la même chose. Puis, l'année dernière, en 2023, au mois de mai, on a eu 3 gelées à différents moments du mois, mais des gelées assez sévères. Donc, il y en a eu une la première semaine du mois de mai, pendant que les poiriers étaient en fleurs, toutes les fleurs gèlent. C'est le temps où ce que l'arbre est le plus fragile, c'est quand il y a des fleurs. Mm-hmm. Ça n'affecte pas du tout la survie de l'arbre, mais en gelant toutes les fleurs, il n'y a pas de fruits. Donc, cette année-là, l'arbre pousse beaucoup.
OK.
La plante va pousser beaucoup parce qu'elle ne fait pas de fruits. Elle les a perdus. Puis, c'est ça. Puis, l'année dernière, il y en a eu une deuxième vague, une deuxième gelée. Puis là, ça a affecté les pommiers. Mais ça a affecté très grand. Il y a une très grande section parce qu'on n'a pas eu de pommes. Puis, mais moi, j'ai eu certaines pommes parce que nous, on a 20 variétés de pommes. Puis on a des pommes d'été jusqu'à des pommes tard à l'automne. Ça veut dire que la floraison s'étire sur plusieurs semaines. Donc, quand les arbres étaient en fleurs, ceux-là ont perdu toutes leurs fleurs. Fait qu'on a eu une vingtaine de pommiers qui ont eu des pommes sur les 450.
Wow!
Puis il y en a eu une un petit peu plus tard, là, ça a affecté plus les framboises. Les bleuets ont été un petit peu moins touchés. On a perdu certains, mais moins. Donc, c'était une très mauvaise année l'année dernière. Puis par contre, cette année, aucune gelée. Tout a poussé, mais là, il y a trop de pluie.
Puis la pluie, bien, comme tu as mentionné, c'est comme pas assez de pluie.
C'est ça. Ouais, oui, mais souvent, nous, la plupart des fermes alentour, les fermes alentour de fruits et de choses, on a tous des systèmes d'irrigation. Puis ça, c'est facile. Nous, c'est bien équipé chez nous. On a un étang, on a une grosse, grosse pompe, puis tous les tuyaux sont sous terre, puis on a du goutte à goutte. Fait que s'il y a 3 jours pas de pluie, les bleuets ne survivent pas. Elles manquent plus que 3-4 jours sans pluie. Mm-hmm. On lève l'interrupteur, puis tout s'arrose. On okay. fait la nuit pour maximiser l'eau, qu'il n'y ait pas d'évaporation, rien. Ça va vraiment au plan. Donc, c'est simple. S'il ne pleut pas, on lève l'interrupteur pour arroser. Mais quand il pleut, on n'a pas accès au robinet. Pas du tout.
Non?
Non, personne n'a accès au robinet, donc ça noie. Puis, tu vois, cette année, c'était un gros problème. Si tu regardes les fraises hier, ils ont été ouverts une dizaine de journées, les fraises ont pourri sur le champ.
Wow!
Puis moi aussi, avec les bleuets, c'est la première fois en 25 ans qu'on a été obligé de fermer tout, puis il y avait encore des bleuets sur les plants. Les bleuets commençaient à pourrir. Ils étaient d'une très, très mauvaise qualité.
Parce qu'ils pourrissaient par en dedans, puis
par
tout
en ça. Dedans, c'est ça. Fait que tu les cueillais, puis ils étaient mous tout de suite, en les cassant.
Mm-hmm.
Donc, ils ne se conservent pas à ce moment-là. Donc, nous, on ne vend pas de bleuets de bonne qualité. On avait déjà ramassé beaucoup, mais comme c'était une récolte record à cause, au début, de la pluie, à un moment donné, c'est devenu un problème. On a fermé, puis il restait encore des bleuets.
Puis ça, ben, tu ne peux pas rien faire avec ces bleuets-là?
Après, non. Quand ils commencent à pourrir, on ne peut même pas s'en servir. Nous, on fait du vin de bleuets.
Mm-hmm.
On les ramasse habituellement vers la fin de la saison. Mais là, c'est allé tellement vite qu'on n'a pas pu le faire. On les a perdus, mais c'est correct. On avait déjà ramassé ce qu'on avait de besoin. Là. Mais c'est ça. Nous, habituellement, on fait du vin. On a fait beaucoup de vin au bleuet.
Mm-hmm.
On vide tout le champ, mais c'est la première fois cette année qu'on n'a pas été capable de le faire.
Ça, c'est comme tu as mentionné, c'est à cause de la pluie, puis ça l'affecte toutes les fruits, les légumes,
oui.
Tout ça aussi.
Tu vois, maintenant, puis la chaleur excessive,
mm-hmm.
présentement, on va ouvrir en fin de semaine pour la cueillette de pommes. Les Polaroid, habituellement, c'est la première pomme qu'on a à l'automne. Elle est déjà toute tombée. Elle était toute petite, elle a tout tombé. Elle est terminée. Donc, on a perdu toutes ces pommes-là. Puis là, en fin de semaine, on va ouvrir, puis on va être rendu dans la Spartan et la Honey Crisp. Puis la Honey Crisp, c'est une pomme qui se cueille normalement vers la fin de septembre. Mm-hmm. Elles sont mûres. Donc, puis, mais il n'y en avait pas de gens pour venir cueillir. Les gens sont habitués à cueillir la pomme en septembre.
Mm-hmm.
Donc, on va essayer d'en, on va en ramasser le plus. Nous, on va faire du jus puis du vin avec, là. Mais on va probablement avoir trop de pommes encore pour ce qu'on peut faire.
Puis aussi, mais c'est, en même temps, c'est peut-être une bonne chose, corrige-moi si j'ai tort, mais quand les pommes puis tout ça tombent puis ils pourrissent, ça donne pas de la nutrition au sol?
Pas nécessairement. Habituellement, on ramasse les fruits pourris parce que ça peut causer du champignon.
Ah, OK.
Puis ça va amener une maladie qui va revenir l'année prochaine. Là, on pourrait avoir d'autres problèmes à ce moment-là. Habituellement, c'est mieux de tout ramasser. Nous, on va en ramasser le plus possible.
Mm-hmm.
Parce qu'on a des fermes alentour de nous, puis ils vont soigner les cochons, les chevaux, les vaches avec.
OK, donc vous les recyclez d'une autre façon.
D'une autre façon. On essaie de nourrir d'autres animaux avec, là. Puis il y a beaucoup de chevreuils aussi chez nous, mais les autres, ils vont en avoir beaucoup dans le champ, là.
Ben, au moins, ça l'attire les chevreuils.
Oui, mais tu vois, les chevreuils ne mangent jamais les pommes dans l'arbre.
Ah oui?
Non, il y a tant qu'ils pourrissent au sol.
Y a-t-il une raison spécifique?
Ils sont bien moins durs, puis ils sentent beaucoup plus. Puis, je vais te dire, s'ils en mangent beaucoup, ils vont bien filer. Parce que la pomme fermente au sol en pourrissant. Mm-hmm. C'est le seul fruit qui fait ça. Fait que tu vas voir des chevreuils très heureux.
Mais t'as mentionné aussi tantôt, j'avais cette question-là qui mijotait dans la tête, c'est pourquoi que les fruits ont tous des saisons différentes, tu sais, ben des périodes différentes, parce que t'as les bleus, t'as mentionné que les fraises souvent c'est, non les poires c'était les premières qui arrivaient, ensuite t'avais les fraises et framboises, etc.
OK, il y a deux choses différentes ici. Moi, je te parlais, les poires en premier, c'est la floraison.
OK.
C'est parce que ça prend plus de temps à produire le fruit.
OK.
Donc, la nature est bien organisée. Si ça prend plus de temps, ils vont fleurir plus tôt
mm-hmm.
pour pouvoir être sûr d'avoir des fruits matures à un moment donné. Mais par contre, au niveau des fruits, ils ne sont jamais prêts en même temps parce que c'est aussi la même nature. Il ne faut pas t'oublier, nous, on fait partie de la nature.
Mm-hmm.
Puis la nature nourrit tout le monde.
Mm-hmm.
Donc, si on avait tous les fruits en même semaine, si on remonte dans le temps, tu n'aurais jamais pu survivre. Parce c'est que vrai. Là, tous les fruits sont tous décalés. Ça part habituellement, les premiers vont arriver en mai, puis sinon jusqu'à la fin octobre. Donc, tu as des fruits, même si tu es dans le bois, tu peux survivre tout l'été. Tu as juste à manger des fruits qui sont en saison.
Non, ben c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de fermes comme ça qui faisaient, comme la vôtre, qui a plusieurs fruits, qui a des légumes aussi, comme la rhubarbe que tu as mentionné tantôt. Mais eux autres, dans le temps, ils étaient comme « Bon, ben il faut aller trouver des fruits, il faut aller trouver des animaux puis tout ça. »
Exactement. Tu vois, nous, on avait déjà la ferme. Puis moi, quand j'étais petit, on partait toutes les semaines pour aller ramasser quelque chose parce que tout poussait sauvage chez nous.
Mm-hmm.
Je sais bien que les fraises étaient petites, là, parce que les fraises sauvages sont meilleures, mais sont très petites. Mais tu avais une période pour tout. Donc, on allait toujours ramasser de quoi, puis on se rendait jusqu'à la fin octobre. Là. On avait des pommiers sauvages aussi qui poussaient tout partout dans les bois. Donc, on ramassait, à partir du mois de mai jusqu'à la fin octobre, on ramassait des fruits.
Mm-hmm. Puis, cette année, tu as mentionné aussi... que tu as du vin puis tout ça, puis tu as eu assez de bleuets, mais est-ce que ça a affecté tes autres vins? Parce que je sais que tu as mentionné que tu as une variété de vins aussi.
Oui, tu vois, nous, on produit 19 sortes de vins. C'est tous des vins de fruits, il n'y a aucun raisin dedans. Puis, depuis 2 ans, on a commencé à changer, ajouter des variétés en se tournant vers des produits qui sont plus résistants à la nature.
À cause des changements
climatiques. Parce que tu vois, il y a 2 ans, les 3 dernières années, on a eu des poires juste une seule année. Puis là, ça fait. parce qu'ils ont, ils ont toujours gelé au printemps. Cette année, ils n'ont pas gelé. On a juste 8 poiriers. On a récolté 3000 livres de poires. Donc, on a fait 6 barils de vin. Donc, mais c'est ça. Mais on a déjà commencé à s'adapter, à trouver des affaires plus résistantes. Puis, dans la nature, il y a plein de choses qui sont résistantes. Mm-hmm. Puis, on peut changer aussi. Au lieu d'aller avec des fruits, on a tendance de se retourner vers d'autres choses.
OK.
Exemple, il y a des fleurs qui font de l'excellent vin.
Tu peux faire du vin avec des fleurs?
Tu peux faire du vin avec des fleurs. Parce qu'il ne faut pas t'oublier, la fleur, les abeilles s'en servent pour faire du miel. Donc, il y a du sucre dans les fleurs.
C'est vrai.
Puis donc, puis la fleur comme telle a une très haute saveur. Donc, chez nous, on a essayé il y a 2 ans, faire du vin avec le pissenlit. Puis le pissenlit, chez nous, on laisse pousser parce que c'est bon pour la pollinisation. Mm-hmm. Si tu viens chez moi à la deuxième fin de semaine du mois de mai, c'est pas vert dans le champ, c'est jaune.
OK, puis toi, tu veux pas les enlever, ces pissenlits-là?
Ben, pas du tout, parce qu'ils servent pour la pollinisation. Il y a des abeilles au sol et dans les arbres ou dans les bleuets. Donc, ça favorise le rendement. Fait que maintenant, on utilise le pissenlit. Puis c'est un de nos vins les plus populaires présentement.
Ah oui, il est si populaire que ça?
Oui, parce que si tu remontes dans à peu près 70 ans passés, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent.
OK.
Puis, quasiment tous les gens des alentours d'ici, il y a quelqu'un qui faisait du vin de pissenlit dans la famille.
Ah ouais?
Puisque moi, c'est de même que j'ai commencé à faire le vin de pissenlit à la demande des personnes âgées. Ils me disaient, tu fais pas du vin de pissenlit? Ils disaient, mon père ou mon grand-père, mon oncle en a fait. Ça serait bon de goûter à ça. Fait qu'on a pu trouver l'idée, vu qu'on avait le pissenlit, il pousse très bien, puis qu'on n'a pas de problème. Puis les gens, nous, la première année, on organise des dégustations, des tests. Moi, si les gens aiment ça. Puis si les gens devinaient c'était quoi, on ne donne pas le nom du vin. Et les gens pouvaient garder la bouteille. Puis tu devrais voir le nombre de... C'était clair. Les gens qui avaient plus de 60 ans devinaient tout de suite. Les gens qui avaient moins de 60 ans, personne ne savait c'était quoi. Puis juste au goût. Donc, ça leur amenait des souvenirs.
Ben, donc, parce que tu pas... Oh, vas-y.
Vas-y.
Parce que tu penserais pas non plus que le vin, d'habitude, on passe à des fruits, tu sais, des vins fruités puis tout ça, mais tu penserais pas qu'une fleur pourrait devenir en vin?
Faut que tu viennes essayer ça chez nous.
Ben, c'est certain.
Puis tu vois, puis depuis l'année dernière, on a introduit un autre. J'avais déjà fait un essai avec mon mentor, celui qui m'a montré à faire le vin. C'est quelqu'un qui vient de Monklin. Ça s'appelait Strathmore Winery. Puis on avait fait un essai il y a à peu près 15 ans, faire du vin à l'ail.
Du vin à l'ail? Comme l'ail des bois?
Oui, mais nous, on prenait la fleur d'ail.
OK.
La fleur, tu sais, il y a pas ça des garlic scape en anglais. Là. C'est même dans les marchés, tu peux en avoir quand c'est la première semaine de juillet, dans la semaine de juin. Puis ça avait donné un bon résultat, mais on n'avait pas été plus loin. Puis j'avais mentionné ça à un de mes amis. Puis l'année dernière, il y avait beaucoup, beaucoup de fleurs d'ail. Il était arrivé chez moi, puis il m'a donné avec 3 ou 4 caisses de fleurs d'ail. Il dit, tiens, je repasse dans 2 mois chercher du vin. Tu vois, fait que là, j'ai un challenge de le faire. Puis, ça a très bien sorti. Puis, c'est un nouvel les plus populaires. Les gens sont étonnés. Mais tu vois, ça, c'est une plante qui est très résistante. C'est la même chose. Puis, il y a plein de producteurs alentour. Puis là, j'ai trouvé un autre de mes amis. Je savais qu'il faisait de l'ail, mais il en fait beaucoup plus que je pensais. Puis, il y en a 25 000 plants. Fait qu'imagine-toi la quantité de fleurs d'ail qu'il y a. Fait qu'on... On a commencé à faire le vin à fleurs d'ail, là, puis ça fonctionne extrêmement bien. Puis, une chose là-dedans, c'est que la fleur d'ail, les producteurs, il n'y a pas beaucoup de transformations qu'ils peuvent faire. Tu peux faire, tu peux en mariner un peu, mais il n'y a pas de demande pour. Fait que la plupart des producteurs l'envoient dans le bois au compostage. Fait que là, moi, en faisant du vin, je trouve à récupérer quelque chose qu'on envoie au vidange.
Ben oui, puis toi, t'en profites, puis t'es comme, OK, ben vous autres, vous l'envoyez au vidange, moi, je vais le transformer, je vais faire ça en vin, puis ça va être super bon, les gens en raffolent. Ma oui. petite question, c'est est-ce que c'est facile à digérer ou c'est comme l'ail en général? Puis si t'as...
Non, c'est beaucoup plus doux parce qu'on n'utilise pas l'oignon.
OK.
On utilise seulement que la fleur, donc ça sent très fort, mais ça a une saveur très douce.
Oh,
mais
oui.
par contre, nous, on ne le vend pas nécessairement juste pour boire, mais c'est surtout pour la cuisson.
Ah, ben oui.
Tu peux faire commencer des vinaigrettes pour des salades. Tu vas juste prendre du vin à l'ail, même portion avec d'huile d'olive. Puis tu peux mettre des épices. Ou encore faire revenir des fruits de mer là-dedans, des crevettes, des pétanques. Puis moi, j'en ai partagé avec beaucoup de chefs. Puis ils m'ont dit, les risottos, c'est fameux. Peu importe la sauce pour les pâtes. Puis il y a même une qui fait du pain au levain. Puis elle a dit que c'était super faire un pain à l'ail au levain avec le vin.
Je me suis toujours demandé, y a-t-il une différence entre le vin pour boire puis le vin pour cuisiner?
Moi, j'en vois pas. Là, mais il y a probablement des différences que les gens vont faire. Nous, on n'en fait pas. On fait exactement la même, notre même technique là, qu'on fait à tous les vins.
Puis cette technique-là, c'est comment ça se passe? C'est parce que doit être différent pour les fleurs puis ça doit être différent pour les fruits aussi? Ou c'est la même technique pour les deux?
La technique est pas mal pareille, mais il faut s'adapter, ça dépend du fruit ou de la fleur.
Mm-hmm.
Parce que tu vois, il y a certains fruits, exemple la pomme, la poire, tu as assez de jus, on fait juste, tout pour nos fruits, on les broie tout en premier.
Mm-hmm.
Puis ensuite, après les avoir broyés, on les presse, la pomme et la poire. Les autres, on broie pas, on les presse pas. Au lieu de prendre le jus, on prend tout le fruit, ce qu'on a. Ça s'en va dans notre berry. Puis la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ajoute de l'eau, de la levure puis du sucre.
De la levure?
Oui, pour faire fermenter.
Ah, ben c'est vrai parce que...
C'est de la levure pour faire le vin.
Mm-hmm.
Tu vois, quand on fait du vin de raisin, tu n'as pas besoin de levure parce que c'est déjà une des choses que dans le... Tu n'as pas besoin de sucre, je veux dire. Nous, on ajoute du sucre. Tu n'as pas besoin de sucre. Le raisin est déjà assez élevé en sucre.
Mm-hmm.
Il va avoir 90-95% de sucre.
Mm-hmm.
Tandis que nous, tout ce qu'on utilise, c'est à peu près 30. Donc, il faut rajouter du sucre.
OK, puis pour donner ce goût sucré-là?
Non, parce que tu vois, quand tu fais du vin, déjà, les gens en faisaient beaucoup du vin, mais ils contrôlaient pas la fermentation. Parce que nous, quand on rajoute du sucre blanc, la levure va s'attaquer au sucre blanc tout de suite. En 3-4 jours, elle a tout dévoré le sucre blanc. Puis ensuite, elle va s'attaquer à la sucrose des fruits, la sucralose, je pense que ça s'appelle, la sucrose, sucralose. Puis, c'est là qu'elle s'attaque. Mais nous, on contrôle. J'ai dit qu'il y en avait 30%. Mais quand on est rendu à 10-15, on arrête la fermentation. Puis c'est ça qui va donner la saveur au vin. C'est le 10 à 15% de sucre du fruit qui reste.
Mais comment tu sais combien de pourcentage de sucre qu'il y a?
Ah, on mesure, on a un hydromètre.
OK.
Puis tu mesures la quantité de sucre qu'il y a. Fait que je te dis que ça, quand on mesure les jus au début, il y a à peu près 30 %. Fait que nous, on rajoute du sucre. Puis nous, nos vins ont tous à peu près 10 % d'alcool. Puis pour faire 10 % d'alcool, la levure doit manger 65 degrés de sucre. Donc si nos fruits ont 30, ça nous a besoin de 65. Nous, ce qu'on fait, on le monte à 80 en achetant du sucre.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Puis on mesure. À tous les jours, il faut brasser puis mesurer. Puis quand on a atteint 10-15, là, on arrête la levure. Puis on a 10 % d'alcool dans notre vin.
OK. Le pourcentage d'alcool, ça vient avec la levure.
La levure puis le sucre.
OK. Parce que
c'est la levure qui convertit ton sucre en alcool.
OK.
C'est la même chose dans le vin de raisin, mais il y a tellement de sucre dedans qu'ils n'ont pas besoin de rajouter de sucre. Nous, il y a deux vins, nous, qu'on fait, qu'on n'ajoute pas de sucre. On en fait un avec du sirop d'érable, puis on en fait un avec du sirop de pomme.
Du sirop d'érable et du sirop de pomme?
Oui.
Donc.
Fait qu'il y a tellement de sucre dedans,
et
c'est là. Puis on a des techniques là, pour faire ça, pour faire fermenter.
Mais c'est quoi ces techniques-là pour le sirop d'érable? Parce que ça doit être complètement différent des autres.
Oui, mais la technique, c'est qu'on met un fruit qui est très, très amer avec. Notre vin à l'érable, il s'appelle érable fruité. Mm-hmm. Parce qu'on met du jus de canneberge avec.
OK.
Du jus de canneberge pur. Du jus de canneberge pur, c'est extrêmement amer. Mm-hmm. C'est pire que du vinaigre.
Mm-hmm.
Fait qu'on met les deux ensemble. Mais ça, ça fait un drôle de mélange. Ça ne veut pas fermenter. Donc, ce qu'on fait, on met un troisième ingrédient qui est du jus de pomme qui fermente tout seul. Puis ces trois-là ensemble, avec un peu de levure, on met rien d'autre, ça fait un super bon vin d'érable canneberge.
OK, parce que vu que le sirop d'érable, j'imagine, fermente, est-ce qu'il fermente aussi? Ou...
Oui. Le sirop d'érable, ben oui, il contribue le sucre.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'il monte du sirop d'érable, mais c'est très, très sucré.
Mm-hmm.
C'est ça. Puis ça fait que ça fermente très... C'est long à fermenter, là, mais ça fait un excellent vin. C'est un de nos vins les plus populaires à la ferme.
Fait que tu pourrais faire quelque chose de similaire avec du sirop de maïs.
Possiblement. Faudrait voir.
quel autre genre de vin que vous avez qui est un peu extraordinaire, qui n'est pas un peu la normale?
Exemple, je mentionnais qu'on va prendre des nouvelles choses.
Mm-hmm.
On est en train de se tourner vers la rhubarbe. On a fait un essai l'année dernière. Puis ça fonctionne très bien. Ça aussi, c'est très, très... Juste aux essais, là, ça a l'air... C'est le vin qu'on a fait qui a le plus haut taux d'acceptation.
Ah oui!
Oui, on a eu à peu près en 500 puis 600 personnes là, qui ont goûté. Mm-hmm. Puis là-dessus, il y en a deux qui n'ont pas aimé, puis une qui a trouvé so-so. Mais toutes les autres ont adoré. Fait que cette année, on va en produire beaucoup.
J'imagine aussi, si tu mets de la levure puis des fraises, peut-être ça ferait genre une tarte aux fraises et à la
rhubarbe. Mais tu vois, comme bonne idée. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà du vin de fraises.
OK.
Fait qu'on va faire le vin de rhubarbe, mais tu fais le mix après. On l'a déjà essayé, on l'essaye avec les gens qui gagnent une bouteille, mm-hmm. parce qu'on sort le vin de fraise. Tout le monde dit c'est de la tarte à la fraise rhubarbe, tout de suite. Fait que ça va bien se vendre parce que ça rappelle des souvenirs aux gens. Aussitôt que tu peux faire développer un produit qui ramène une bonne mémoire,
nostalgie
aux gens, là, c'est très vendeur.
Ben, c'est certain. Puis aussi, juste le fait, comme les vins au pissenlit pour les personnes âgées, comme tu mentionnais, mais aussi pour la nouvelle génération. Tu sais, moi, je vois ça, un vin au pissenlit, puis je suis comme, mais c'est quoi? Tu sais, la curiosité aussi qui pique.
Donc, exactement. Oui, c'est ça. Puis nos vins, ces nouvelles variétés-là, ils sont de plus en plus populaires. Donc, on a les ceux plus standards. Puis on a aussi, on se tourne vers autre chose. Puis mm-hmm. comme cette année, on va en produire deux nouveaux. Il y en a un qui va être, parce que nous, on a planté, j'ai mentionné qu'on avait des cerises.
Mm-hmm.
Moi, j'ai planté des cerises, c'est mon fruit préféré.
Mm-hmm.
Mais avec le but de faire du vin. Puis on va faire l'essai cette année. Parce que là, nous, on a planté, on avait un cerisier. Moi, je fais toujours des essais, voir si l'arbre va bien se... L'arbre ou l'arbuste va bien se comporter chez moi. Mm-hmm. Parce que c'est toujours dépendant du sol puis de la température. Il y a bien des choses, c'est très, très différent. Puis, on a planté 500 cerisiers.
Mm-hmm.
Donc, les gens vont pouvoir venir en cueillir, probablement à partir d'ici 2 ans.
Mm-hmm.
C'est en même temps que les framboises et les bleuets. Mais nous, on va faire des essais pour voir qu'est-ce que ça fait avec le vin.
Oh!
Faire du vin à la cerise. Puis nous, c'est des... Ce qu'on prend, c'est des griottes. C'est des cerises semi-sûres, parce que les cerises, comme les gens sont habitués, les cerises qui viennent plus du sud, là, les grosses cerises, les autres sont un peu plus petites,
mm-hmm.
mais sont rouges écarlates.
OK.
OK, ils sont pas foncés, mais ils sont plus surettes. Mais c'est correct. Moi, je trouve que c'est juste de la saveur, ça. Quand c'est sûr, c'est ça qui donne de la saveur.
Mm-hmm. Puis je présume, parce que... qu'est-ce qui est suré, qu'est-ce qui donne ce goût-là, c'est une sorte de sucre aussi.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, ça, c'est sûr que ça va bien fermenter.
Ça va bien, oui, ça va bien fermenter. Puis, on va s'essayer avec un autre fruit,
mm-hmm.
mais que les gens ne voient pas comme un fruit, c'est la tomate.
C'est vrai, tout ce qui a un pépin, techniquement, c'est un fruit.
C'est ça, fait qu'on va probablement s'essayer avec la tomate. Parce que ça, même s'il y a des mauvaises années, il y a toujours quelqu'un qui a des tomates, fait qu'on va... On va probablement planter on va essayer des saveurs qui appelle héritage, mm-hmm. parce que sa saveur était plus forte. Puis on va essayer ça cet hiver, de voir. Parce que là, je verrais bien, si on fait un vin à la tomate, un vin à l'ail, ça pourrait très bien aller ensemble.
Ah oui?
Puis faire des super beaux drinks. Il y a des gens qui mettent déjà de l'ail dans des vodkas. Faire des drinks avec de l'ail. Fait que on peut être très créatif avec les différents vins.
Oui, puis c'est vrai parce que je sais qu'il y a des gens qui mixent, tu sais, les jus de cornichons. Mm-hmm. Souvent, il y a de l'ail dedans. Fait que, tu sais, ils mélangent ça avec un spiritueux de quelque sorte. Puis ça donne différentes saveurs, différents goûts, puis tout ça.
C'est ça. Fait que faut juste essayer les différentes choses. Puis tu me mentionnes, quand la question initiale, c'était si j'avais d'autres fruits ou choses qui sont uniques. On a fait des essais avec le kiwi
okay.
pour le vin, parce qu'on a des producteurs de kiwi dans la région.
Mm-hmm.
Puis la même chose avec l'argousier. Ça, c'est des super fruits.
L'argousier, je
l'argousier,
connais pas.
L'argousier, oui. C'est un petit baie orange. Mm-hmm. Ça s'appelle sea buckthorn en anglais. Dans l'arbre, il y a des épines d'à peu près 5 à 6 pouces de long. Wow. C'est très dangereux. Mais c'est un super fruit. C'est le fruit qui a le plus d'oméga 9 dedans. Puis les oméga 9, c'est excellent pour des produits pour la peau.
Ben oui, parce que souvent tu vois sur les petites bouteilles oméga 9, puis
c'est
tout ça.
Fait que donc, le fruit est très bon pour ça. Puis on a du vin maintenant avec de l'argousier.
Mm-hmm. T'as mentionné tantôt, pour revenir un petit peu à la fermentation des choses, c'est un processus où est-ce que les choses fermentent, là, mais c'est grâce vraiment à cette levure.
Oui, mais la levure, tu vois, il y en a, comme je te mentionnais, la levure, la pomme fermente tout seul.
Mm-hmm.
Nous, on fait du jus de pomme, puis nous, on ne met aucun produit dedans. Donc, ce qu'il faut faire, on n'a pas le choix, on presse, il faut le congeler tout de suite.
Mm-hmm.
Parce que la pomme, après 4 heures, va commencer à fermenter.
Puis ça, c'est-tu un effet néfaste si ça fait
bon? C'est plus un jus. Essaye de donner ça aux enfants après. Pas trop. Je dirais pas que c'est nécessairement bon.
Ouais, ben c'est vrai. Si tu donnes ça.
C'est ça. Fait que nous, on le gèle. Quand tu l'achètes au magasin, ils ont fait 2 choses. Soit qu'ils ont pasteurisé, donc ils l'ont fait bouillir pour enlever plein de choses, ou encore ils ont mis du potassium sorbate. Nous, on essaie de tenir toutes les choses naturel,
mm-hmm.
donc on le congèle. Mais si tu prends une pomme, si tu la coupes en deux, elle va noircir. OK, elle va oxyder. Puis ce que ça va faire, c'est que c'est ça que ça va créer comme une levure.
Mm-hmm.
Tu vas la voir sortir. Donc, habituellement, il y a beaucoup de levure qu'on achète pour le vin qui est à base de pomme.
Okay.
C'est naturel. La levure mm-hmm. vient de quoi de naturel. Puis ça va. Puis ce que ça fait, c'est que ça va toujours manger le sucre pour convertir en alcool.
Mm-hmm.
Je sais pas qui a découvert ça, là, ça fait longtemps, là, mais c'est une très bonne découverte.
C'est peut-être Newton quand la pomme a tombé sur sa tête.
Oui.
Elle était comme, elle est plus bonne celle-là, on va croquer dedans, puis ça a donné un petit effet olé olé. Ceci était la première partie de Go FM et dans le pré avec Michel Villeneuve. Écoutez le prochain épisode pour la suite. Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.